Merci, Jean-Pierre. Je suis un peu âgé, je fais une présentation un peu old fashion avec un PowerPoint. La première chose...
Ah bon?
Oui.
Old fashion, PowerPoint?
Oui, mais c'est vraiment, c'est mieux de faire. Mais moi, je vais vous accompagner d'une réflexion, j'espère, utile. Mais la première chose, j'essaierai de faire mon présentation en français. S'il y a évidemment des problèmes, j'ai un peu intégré avec l'anglais, mais peut-être que je vais terminer en italien. Pourquoi pas?
De toute façon, ici. Hein.
Merci d'abord à la Fondation, à Jean-Pierre et à Marthe pour cette invitation. Je suis très honoré de faire cette rencontre, de parler un peu d'Erasmus, aussi de tromper les résistants italiens. Nous sommes en période de résistance, nous, les nouveaux partisans. Je ne sais pas si partisans c'est correct.
Partisans.
Partisans, oui. Marthe, je t'essaierai de. Oui, un peu. Il y a. Les partisans italiennes. Je vous expliquerai un peu qu'est-ce que c'est Unimed et je parlerai un peu de la mobilité d'Erasmus Méditerranée qui n'existe pas. D'abord, je dirais que le programme Erasmus pour la Méditerranée n'existe pas. Il existe formellement, mais la réalité qui n'existe pas. Mais d'abord, je voudrais un peu réagir sur qu'est-ce qui a été dit ce matin sur les réfugiés. Et sur la situation politique européenne, pas seulement italienne, mais aussi européenne. Un écrivain italien qui s'appelle Ennio Flaiano, qui est venu plusieurs fois à Paris, il a dit dans son petit livre, qui est une sorte de diario,
oui, c'est dit, oui. Notre ami napolitain.
Oui.
Oui, c'est ça.
Oui.
Il a dit, entouré de
qu'il a écrit, tu peux mesurer la démocratie d'un pays en respect, en relation au respect qu'il porte à les sans-papiers, en regardant les sans-papiers parisiens. Nous pouvons imaginer cette réflexion aussi pour la migration. Une démocratie d'un pays se va évaluer aussi en respect, à le respect qu'il porte à les migrants. En Italie, nous sommes en train d'avoir une période très particulier sur ça, et aussi je pense que nous sommes un peu de risque sur la démocratie. Évidemment, j'espère que cette situation va changer tout de suite, mais il y a une situation qui doit aussi inviter l'Europe à changer un peu l'approche. Vous avez parlé des réfugiés, sur les soutiens que l'Europe est en train de mettre en place pour les réfugiés, mais les réfugiés ne sont pas en Europe. Les réfugiés restent dans la région surtout. Dans le Liban, dans la Jordanie, dans la Turquie. Nous avons payé la Turquie pour dire, s'il vous plaît, nous avons besoin de votre aide pour maintenir les réfugiés dans la région. C'est une situation qui nous doit faire des choses. Il y avait toutes les activités, pause, les scolaires tristes, mais nous avons des projets, par exemple. Un projet qui s'appelle l'INIA, qui est terminé au mois de septembre, financé par la Commission européenne, pour un peu évaluer qu'est-ce qu'ils sont en train de faire les universités au niveau européen pour aider les réfugiés, intégrer les réfugiés dans les programmes universitaires. Et un autre projet qui travaille dans l'autre côté de la Méditerranée, avec le Liban, la Jordanie, la Turquie et le Kurdistan irakien, le nord de l'Irak, pour aider les universités locales à intégrer les Syriens dans l'activité universitaire. Comme vous savez, un rapport de UNHCR, il a dit que seulement 1% des réfugiés sont intégrés dans les parcours universitaires. Le pourcentage de personnes qui vont à l'université dans tout le monde est 35%. Il y a une différence énorme. Nous devons travailler sur ça pour aider les Syriens, les réfugiés, dans tout cas, pas seulement les Syriens, évidemment, à s'intégrer en plus sur la dimension d'études universitaires. Et la mobilité méditerranéenne joue un rôle très important. La situation politique, si vous regardez un peu à la politique de voisinage de la Commission européenne, qui a commencé plus de 30 ans, il ne marche pas. L'objectif de la politique de voisinage, c'est d'avoir des pays voisins qui sont bien développés avec la démocratie, sans les conflits, mais nous avons Unimed a commencé son activité en 1991 il a été sommé à la situation israélienne-palestinienne, les conflits israéliens-palestiniens. Mais après plus ou moins 30 ans, nous avons la Libye, la Syrie, le Yémen, l'Irak, dans une situation un peu incroyable, et aussi l'Égypte, qui est retournée dans une situation de dictature, on va dire les choses comme sont. Et la Turquie, la situation est évidemment, c'est, nous disons en anglais, they failed. C'est le problème européen, c'est pas le problème d'un pays, c'est la politique de voisinage européenne ne marche pas parce que chaque pays a son politique extérieure. Si nous changeons pas cette situation, nous restons comme nous sommes et la situation peut-être qui va un peu à, qui non, je suis sûr qu'il va pigeonner. Une autre chose en rapport aux artistes, c'est vraiment important d'intégrer d'initiatives culturelles avec les jeunes artistes, pas seulement. Nous avons commencé avec une petite chose à le Festival du cinéma de Venise. Et la deuxième fois que nous avons un jury d'étudiants qui est là pour évaluer tous les films en concours et pour donner un prix en rapport à les films qui mieux représentent l'intégration culturelle. Cette année, nous avons donné un prix à un film israélien d'un registre.
Un metteur en scène.
Il a dit très bien. progressiste, qui est censuré plusieurs fois dans son pays. Il est très intéressant d'avoir ce mélange d'étudiants tunisiens, italiens, espagnols, algériens qui sont là pour 10 jours. Une expérience humaine fantastique, on peut imaginer les festivals de cinéma avec les acteurs, etc.
À Venise.
Ouais, à Venise, c'est pas mal. Mais pour dire que nous avons besoin de créer cette situation de mélange entre les jeunes, pas seulement dans la dimension universitaire, aussi dans la dimension culturelle, etc. Je vous expliquerai un peu qu'est-ce que c'est UNIMED par rapport à notre activité. Évidemment, UNIMED, c'est un, comme a bien dit Jean-Pierre, un réseau d'universités de tous les pays de la Méditerranée. Nous avons 112 universités de 23 pays, pas seulement les pays euro-méditerranéens, mais nous avons tous les pays européens méditerranéens, tous les pays de la rue sud de la Méditerranée. Il y a aussi des pays du Golfe. Nous avons aussi l'Irak avec nous, la Finlande, méditerranéenne, ma l'Università di Tampere, il y a un istituto che si occupa del Mediterraneo, très intéressant. Évidemment, dans notre réseau, nous avons plusieurs universités italiennes, il y a 30 universités italiennes qui sont membres du MEC, qui est plus ou moins un troisième des universités italiennes. Et pour parler un peu en rapport à la France, nous avons 3 universités françaises, Paris, Panthéon, Sorbonne. Non, ce ne sont pas les méditerranéennes. Paris, Panthéon-Sorbonne, Strasbourg et Rouen. Ah,
mais, carrément au nord.
Oui, c'est la France. Et nous avons un petit antenne, nous sommes basés à Rome. Notre équipe, c'est une équipe de plus ou moins 20 personnes qui travaillent sur le projet européen, je vous dirai un peu. Mais nous avons aussi des petites antennes, une antenne ici à Paris en Panthéon, mais aussi au Maroc, en Portugal. Les Portugais sont très actifs sur les réfugiés, je dois dire, et avec un commitment, une implication du gouvernement très fort. Le président, personnellement, il a appuyé des projets très intéressants. Évidemment, il peut faire grand-chose, c'est un petit pays, mais ils sont bien impliqués sur ça.
Bien. Par rapport à son histoire, c'est bien.
Oui, par rapport à son histoire, exactement. Par rapport à son histoire. Oui.
J'ai pas vu le
simple. Oui, non. Je vous explique un peu, vraiment, en 2 minutes seulement, et après je parlerai d'Erasmus. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons plusieurs projets. Dans ce moment, nous avons plus ou moins 32 projets financés par la Commission européenne avec différents programmes, Erasmus+, Horizon 2020, etc. Mais les projets sont le résultat d'une stratégie sur les priorités de la région. Nous faisons d'activités, évidemment, pour aider les universités de la rive sud de la Méditerranée pour renforcer son capacité avec l'aide, évidemment, des universités européennes. Mais les priorités pour nous sont 3-4 priorités. La première, c'est l'autonomie du système universitaire. Sans autonomie, il n'y a pas de démocratie. Les systèmes universitaires de la rive sud de la Méditerranée, à différents niveaux, il n'y a pas d'autonomie. Ils sont bien contrôlés par l'État. Toutes les choses sont décidées par l'État. Le changement aussi qu'il a été en Turquie est vraiment intéressant. Un recteur peut être et comme le prof, c'est intéressant. Mais aussi la même chose en Égypte. Ils changent complètement le système après Al-Sisi. Il y a aussi des problèmes en Tunisie, qu'il n'y a pas d'autonomie financière. La gouvernance n'existe pas. Il y a plusieurs projets de réforme, d'autonomie, etc., qui marchent vraiment, je dis, piano, piano. Lentement, oui. Ce travail, nous ne pouvons évidemment pas changer la dimension politique. Ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre capacité. Mais il y a plusieurs choses que nous pouvons faire avec le travail en commun avec les universités. Il y a plusieurs projets que nous avons sur ça, en Algérie, il y a un projet incroyable sur la question de l'autonomie, qui n'existe pas, à tous les niveaux. La Tunisie, nous avons un nouveau projet en Irak, un projet en Palestine sur ça. C'est une sorte de fil rouge que nous essayons de maintenir sur la question de l'autonomie universitaire. Une autre chose importante, très importante, la région méditerranéenne n'existe pas. Les universités, les pays méditerranéens, de la rive sud de la Méditerranée, sont habitués à travailler en dimension bilatérale, mais il n'y a pas d'échange au niveau régional. Un prof marocain, peut-être qu'il est venu ici à Paris ou en France en général, en Europe plusieurs fois, mais il n'y a pas de contact ou d'action en commun avec, bien sûr, avec l'université algérienne, mais aussi avec l'université égyptienne. Cette dimension, cette absence de la dimension régionale qui est un peu alimentée aussi par l'Europe qui préfère avoir une coopération bilatérale, c'est un problème énorme. Nous avons un peu construit l'Europe avec le programme Erasmus et les systèmes universitaires sont bien Erasmus intégrés.
Local,
non, Erasmus européenne. Oui, non, voilà. J'ai dit, oui. Les systèmes européens universitaires sont intégrés, pas seulement les systèmes universitaires, mais dans la Méditerranée, cette dimension n'existe pas. Et c'est une question que nous essayons de renforcer de la coopération entre les universités. Notre problème très important, c'est la transformation de la mentalité des profs dans la région, qui sont liés à son rôle, ils ne sont pas ouverts à une coopération avec l'autre acteur de la société, pour dire la dimension économique, mais aussi les autorités locales. Et la dimension de la responsabilité sociale. Les universités doivent jouer un rôle dans la transformation d'un pays, dans une transformation de la communauté locale. C'est une autre chose que nous essayons de faire avec notre projet et avec notre activité de collaboration avec les institutions, comme par exemple la Fondation, mais pas seulement. Pour faire toutes ces choses, nous avons aussi des dialogues avec la Commission européenne. Nous organisons des activités pour parler, pas seulement pour parler, pour essayer d'influencer le travail de la Commission, qui, je dois dire, c'est la plus importante institution qui finance des choses pour la Méditerranée. À la fin de la journée, c'est la seule institution qui fait des choses, qui a une vision, qui peut être évidemment améliorée. Mais qui a une vision? Les pays, l'Italie, la France, l'Espagne n'ont pas une vision éthique et morale de la coopération avec la Méditerranée. Il y a une dimension de business, mais pas une dimension culturelle. Et pour faire ça, nous organisons par exemple la Unimed Week à Bruxelles avec des rencontres avec la Commission européenne et notre membre pour écouter, mais aussi pour expliquer qu'est-ce que nous avons besoin. Je commence à parler du programme Erasmus avec des slides qui sont préparés par la Commission européenne. Ce n'est pas mon information, c'est une information publique, bien évidemment. Il y a un programme qui s'appelle Erasmus, le même nom que nous avons pour l'Europe, vous bien connaissez Erasmus, qui est ouvert à tous les pays du monde, et en particulier les pays de la politique de voisinage. La même méthodologie, différents les moyens, la méthodologie de financement, mais les bourses, les périodes d'études, c'est la même chose. toutes les règles sont les mêmes avec le nouveau programme Erasmus+. Et la méthodologie, les moyens, l'argent, ils sont là. Toute l'organisation, c'est la même chose. Chaque pays, il a son petit argent pour faire des mobilités avec les pays de la rive sud. Et pour expliquer comment il marche, il n'y a pas de différence. C'est la même chose, me semble, nous pouvons dire que le programme Erasmus existe pour les pays de la rive sud de la Méditerranée. Mais évidemment, en Europe, nous avons 300 000 étudiants chaque année qui bénéficient d'un programme Erasmus. 300 000. En 30 ans de programme Erasmus, nous avons 3 millions d'étudiants qui ont bénéficié du programme Erasmus. Nous avons pas seulement des jeunes Erasmus, mais nous avons des mariages Erasmus. Nous avons des filles Erasmus.
Des films Erasmus.
Mais après 30 ans, nous avons aussi des divorces Erasmus. C'est incroyable. Nous avons un peu créé l'Europe avec Erasmus. Oui? Je n'ai pas bénéficié de l'Erasmus, mais nous avons créé l'Europe avec l'Erasmus. C'est la, aussi, il y a beaucoup de familles qui ont connu notre pays Erasmus avec notre pays européen avec l'Erasmus, parce qu'ils sont allés à visiter ou à écouter des choses. Ça pour dire l'importance d'un programme comme Erasmus, pas seulement au niveau universitaire, parce qu'il y a des profs qui sont un peu critiques sur la dimension Erasmus en rapport à la qualité de la mobilité. Mais c'est le programme Erasmus en chiffres pour la Méditerranée. Pour les premiers 3 ans, c'est une petite évaluation du programme. Les numéros sont vraiment limités parce que chaque année nous avons plus ou moins 5000 bourses pour les étudiants. 5000, c'est rien en rapport à tous les pays de la Méditerranée. On doit imaginer que l'université du Caire, il y a 250 000 étudiants. A quarter of a million. Sounds different. Avoir 5000 bourses chaque année, ça signifie vraiment rien, parce qu'il va limiter la mobilité seulement à les familles qui ont la capacité d'aider son fils à participer à un programme Erasmus, à la mobilité à l'étranger. Et les profils, évidemment, s'il y a les 50% pour le staff, mais les 30% européennes qui va à la Méditerranée, les 70% qui vient en Europe. Mais pour dire, c'est la mobilité, c'est planet, parce que les dates ne sont pas définitives, évidemment. Mais il y a une réflexion intéressante, qui est plus ou moins les 30% de cette bourse sont demandées pour des étudiants israéliens, qui va réduire la mobilité pour les pays de la rive sud de la Méditerranée à 3 500 bourses chaque année. Évidemment, je ne suis pas contraire à la mobilité avec les Israéliens, mais ils sont dans différentes situations académiques et économiques.
Ils circulent entre les universités du Sud.
Non. C'est bilatéral avec l'Europe.
C'est bilatéral.
C'est bilatéral. Non, n'existe pas. La mobilité sud-sud n'existe pas.
La régionale ne marche pas.
Exactement. C'est pour dire.
C'est ça que je voulais savoir. C'est uniquement vers le Nord.
C'est une dimension de mobilité bilatérale.
Oui, c'est ça, c'est tout d'un coup ce que
vous dites. Non. Mais si nous avons un pays bien développé au niveau économique et surtout bien développé au niveau, évidemment, académique, qui va bénéficier d'argent qui sont évidemment destinés à une région qui a des différentes situations économiques, ça pour dire que cette mobilité est en plus réduite. 3 500 bourses chaque année, ils sont rien. Absolument rien. Et nous avons imaginé de demander d'augmenter cette bourse pour le prochain programme. Je vous explique. Voilà. Il y a un autre programme qui s'appelle IRC, qui est un programme très intéressant. Il y a un programme pour la mobilité des chercheurs. Très important. C'est fantastique parce que c'est ouvert à tout le monde. Il y a beaucoup d'argent sur ça. Il y a une compétition entre les universités pour avoir des bourses IRC, évidemment. Comme marche le programme IRC, ce sont des slides de la Commission européenne, notre fois. une marche pour tout le monde, blablabla, mais pour démontrer un peu quelle est la situation en rapport à la bourse IRC et la Méditerranée. Dans cette slide, vous pouvez voir les pays pas européens qui bénéficient des bourses IRC, les chercheurs pas européens. Il y a la Chine, évidemment, les États-Unis, l'India, la Russie et après d'autres. Et peut-être qu'il y a des pays méditerranéens dans...
Other.
Parce qu'ils n'existent pas. Il y a les Canadiens, les Brésiliens, les Australiens, les Coréens, les Mexicains, les Taïwan. Mais il n'y a pas la capacité pour les chercheurs méditerranéens qui sont à côté de notre système universitaire, qui sont pas loin en termes géographiques, culturels, politiques, etc. Mais ils ne sont pas capables de gagner en bourse IRC. Donc, c'est ça la situation. Ça, c'est pour dire que pour moi, pour mon vision, pour notre vision comme Unimed, le programme Erasmus, la mobilité des chercheurs, malheureusement, ce n'est pas une opportunité pour la Méditerranée. Qu'est-ce que nous faisons un peu pour réagir? Nous sommes les partisans en rapport à la politique italienne, mais nous sommes aussi les partisans en rapport à la politique de voisinage de la Commission européenne. Qu'est-ce que nous faisons un peu pour changer cette situation et pour faire des choses, j'espère, concrètes? Nous avons plusieurs projets, comme j'ai dit, sur tous ces domaines-là, la mobilité, évidemment, l'employability, la governance, comme j'ai dit, mais aussi les réfugiés. Il y a d'autres projets sur l'innovation pédagogique, sur la coopération interrégionale et sur la mobilité en particulier. Nous avons ce projet-là qui est un projet coordonné par Unimed avec des universités maghrébines. Il y a aussi Paris Panthéon qui est partenaire de ce projet-là. L'idée, c'est de renforcer les capacités d'abord de l'université partenaire de ce projet, l'université maghrébine, pour être capable de monter des projets de mobilité, d'offrir des opportunités de mobilité pour les chercheurs, parce qu'il n'y a pas seulement la Commission européenne qui va financer la mobilité. Il y a aussi la Fondation qui finance la mobilité. Il y a d'autres opportunités. Si l'université, surtout les universités méditerranéennes, pas les universités européennes, ne sont pas capables de travailler sur cette dimension-là, ce n'est pas facile pour nous d'aider les universités à faire ça. C'est un grand projet qui est en marche. Nous avons fait plusieurs activités de formation et nous sommes en train aussi, évidemment, ce sont des projets pilotes de faire des mobilités sud-sud pour répondre à cette dimension de l'absence de coopération régionale. Notre projet est incroyable, parce que ce n'est pas un financement européen, c'est une petite initiative d'une fondation italienne, qui est notre partisan, je peux dire. C'est une fondation bancaire, la fondazione di Sardegna, qui est en Sardaigne, évidemment, qui finance 100 étudiants maghrébins qui vont étudier en Sardaigne, pas pour une période, mais pour un cours de laurea.
Un cycle de licence.
Oui, en licence, pour une licence. Et sont totalement payés par la fondation, remboursés avec une bourse qui, évidemment, suffit pour vivre en Sardaigne. L'université a renoncé à la cotisation, bien évidemment. Et nous avons déjà des lauréats maghrébins qui étudient en Sardaigne. La chose incroyable est qu'ils parlent pas seulement très bien italien, mais aussi avec un fantastique accent sardinienne, c'est merveilleux. Nous avons fait un petit vidéo sur ça. C'est incroyable l'expérience au niveau culturel, pas seulement académique, ils sont bien intégrés. Ils restent là, peut-être, pour travailler en Sardaigne, qui est une région déserte en rapport à son capacité. Et il y a aussi notre projet pilote qui est financé par la Commission européenne, qui est la Virtual Mobility. Nous sommes un peu préoccupés, mais nous sommes là un peu pour contrôler cette idée. Parce que la mobilité virtuelle, c'est un moyen pour renforcer la mobilité, pour dire que la Commission a financé plusieurs bourses de mobilité virtuelle.
Mobilité virtuelle.
Virtuelle, mais l'idée c'est de faire, parce que c'est évidemment, la mobilité virtuelle, c'est moins cher.
Oui.
Et la Commission peut dire, nous avons fait 2 millions de mobilités avec la Méditerranée. Mais peut-être en moyenne pour commencer à réfléchir sur la mobilité. Pourquoi? Oui. Si tu connais un peu la situation de notre côté de notre pays, oui, oui, au niveau universitaire, culturel, parce que évidemment, si une étudiante européenne pense de faire une période de mobilité en Algérie, mobilité universitaire, peut-être qu'il y a un peu de, pas seulement de préjudice, mais on peut aussi de dire, parce que je dois faire ça. La même chose, au contraire, il y a, j'ai parlé avec des étudiants libanais, qui sont préoccupés de venir en Europe. Peut-être qu'il est un peu dangereux de venir à Paris pour la question des potentiels attentats, etc. Pour dire qu'il va changer un peu la dimension de la compréhension de l'importance de la mobilité. Peut-être qu'en période aussi, il y a l'étudiant qui dit, étudiant méditerranéen, qui dit je ne suis pas intéressé de venir en Europe parce que je suis pas sûr d'être discriminé. Peut-être que je viendrai à Rome et je serai discriminé parce que je suis musulman. Faire un exchange virtuel peut-être une possibilité de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans une société, qu'est-ce qui se passe au niveau universitaire, qu'est-ce qui se passe dans une dimension culturelle différente. Il y a plusieurs activités que nous sommes en train de faire. C'est pas mal, mais ne peut pas être la seule réponse pour l'intégration entre l'Europe et les pays de la Méditerranée, évidemment. Donc, pour réagir sur le plan politique, pas seulement avec les projets, nous avons lancé l'année dernière deux initiatives, une pour un manifeste sur le rôle de la social science and humanities dans la coopération euro-méditerranéenne, parce que la Commission européenne va financer des projets de recherche sur les domaines de l'eau, de l'énergie, de l'agriculture, et semble que toutes les questions reliées à la politique, à la société, restent, à la culture, restent un peu... extrêmement, parce qu'il a un peu peur de dialoguer, oui, avec les pays de la Russie sur ce domaine-là. Pour cette raison, nous avons lancé à l'Assemblée de Paris de l'année dernière ce manifeste sur le rôle de la social science and humanities. Je ne sais pas parce que j'ai pensé... Oui. Je ne suis pas capable de dire en français social science et humanité. Oui, sciences humaines et sociales, oui, bien sûr. Et une autre chose, c'est la pétition pour créer cette génération méditerranéenne, Erasmus méditerranéenne. Évidemment, aussi, comme ça a été bien demandé pour vous, aussi une dimension Erasmus pour les réfugiés. Parce qu'il n'y a pas seulement la mobilité qui doit être renforcée, mais aussi d'opportunités pour les réfugiés. Pour faire un période, parce que cette idée de demander aux réfugiés, s'il vous plaît, reste là, venez pas en Europe, c'est absurde, évidemment, c'est bien absurde. Nous avons lancé cette pétition en ligne, je vous invite à signer la pétition, bien évidemment, pour l'Erasmus. Hein? Il coûte à court rien, évidemment. Et aussi le manifesto. Je dois faire un peu de marketing.
Il y a un manifesto.
Sì,
le
un
nouveau manifesto.
Manifesto. Ouais, nous avons écrit un manifesto avec l'aide de Eric Vallée, de Benaziza, de Tunis, etc. Et nous avons aussi cette rencontre pour parler de cette dimension. Donc, pour dire sur la dimension de l'Erasmus. L'Erasmus, ce n'est pas la solution au problème de l'intégration entre l'Europe et la Méditerranée, bien évidemment. Il y a besoin d'une dimension, d'une vision politique qui malheureusement n'existe pas. La Commission n'a pas une vision unique, il y a l'intérêt de chaque pays. Nous sommes l'Europe de l'euro, mais nous ne sommes pas l'Europe de la culture, malheureusement, surtout au niveau académique. Nous avons besoin que les leaders de l'université s'implique dans cette situation-là. Oui. Parce que ce sont personnes libres, par définition. Ce n'est pas, malheureusement, la même chose dans les pays de la Rue du Sud. Et la mobilité est une réponse... la mobilité universitaire, c'est une réponse extraordinaire. J'ai eu l'opportunité de faire plusieurs choses, de plusieurs initiatives de mobilité avec les étudiants, avec toutes les difficultés, bien évidemment, des visas, qui est une autre chose incroyable. Nous avons fait, par exemple, une start-up competition avec l'étudiant des universités libyennes, tunisiennes, marocaines, françaises, italiennes à Messina. Une expérience incroyable. L'étudiant tunisien, il a eu les visas seulement pour 3 jours. Le jour de voyage, le jour pour faire la conférence, toutes les rencontres, et le jour pour retourner.
Tunisien juste pour traverser oui. la Méditerranée.
Oui.
La...
Oui. Seulement trois jours pour faire un voyage, pour oui. partager avec des collègues. Voilà. C'est la question des visas. Comme on dit, d'un côté, la Commission va financer la mobilité, l'intégration académique d'étudiants et de jeunes. D'un autre côté, toutes les questions de la sécurité vont bloquer la demande qu'ils ne dialoguent pas.
Les Français, c'est la même chose.
Mais, tout, mais évidemment. Évidemment. Comment réagir à cette situation-là, ce n'est pas facile. Mais demander plusieurs bourses, c'est un moyen pour démontrer que la mobilité académique, ce n'est pas un risque pour l'Europe, du tout. C'est une opportunité et c'est une obligation. Parce que nous devons, si la situation de la Méditerranée, des pays de la révolution des jeunes de la Méditerranée, regarde à l'Algérie, c'est une gérontocratie qui gère les 80% des jeunes dans le pays. Sans aucune vision sur le futur, sans aucune opportunité sur le futur. La mobilité peut contribuer un peu à changer les choses. Mais malheureusement, les discours politiques qu'il y a maintenant, c'est un discours qui va en direction contraire. Pour terminer, un petit exemple sur la situation italienne. Nous sommes indépendants du système italien, nous ne sommes pas financiers par le gouvernement italien, nous ne sommes pas financés d'aucun gouvernement, nous sommes libres de faire notre chose sans aucune implication politique. Mais juste pour vous dire qu'est-ce qu'il passe en Italie en termes de discours politique. Une petite commission qui s'appelle la Commission parlementaire italienne d'affaires européennes a voté un ordre de jour adressé à la Commission européenne pour renforcer la mobilité avec la mobilité universitaire Erasmus avec les pays non européens. Au début, cette discussion était de renforcer la mobilité avec les pays de la rive sud de la Méditerranée. Mais le parti de Salvini, de M. Salvini, a demandé de casser l'indication des pays de la rive sud de la Méditerranée et de parler en manière générique de mobilité avec les pays pas européens. Ça signifie rien parce que ces commissions-là, c'est rien. Mais c'est le discours politique qui est un discours barbare. Et les barbares sont qui parlent de barbares. C'est vraiment barbare. Excusez pour mon français. Merci.